L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Serge Véhémé, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant. Avec lui, nous allons analyser l'accélération du processus de désintégration du globalisme depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine et ses probables impacts sur le fonctionnement des institutions internationales. Nous nous focaliserons en particulier sur les opportunités qu'ouvrent ces changements pour tous les peuples du monde, notamment africains qui veulent reprendre en main leur destin en recouvrant la souveraineté de leur pays. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La défaite de l'Allemagne nazie, à laquelle l'Union soviétique a contribué de manière décisive avec le soutien des alliés occidentaux, a permis de jeter les bases de l'ordre international d'après-guerre. Sa base juridique, qui était la Charte des Nations Unies et l'organisation mondiale elle-même, incarnant le véritable multilatéralisme, a acquis un rôle central de coordination dans la politique mondiale. Aujourd'hui, le système centré sur l'ONU ainsi que sur toutes les organisations qui lui sont affiliées traverse une crise profonde. La cause étant que certains membres occidentaux de l'organisation ont tenté de remplacer le droit international et la Charte des Nations Unies par une sorte d'ordre fondé sur des règles qui n'ont pas fait l'objet de négociations internationales transparentes. Dans cette optique, les organisations internationales, qui en principe sont des personnes morales de droit public, créées par traité entre États souverains, sont devenues des outils de la gouvernance globale au service des puissances de l'argent occidentale issues depuis 1991, suite au démembrement de l'Union soviétique. Depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine en février 2022, les règles du jeu changent à très grande vitesse, aussi bien en termes économiques et géoéconomiques qu'en termes de mode de gestion et d'évolution des organisations internationales. Ainsi, comment analyser les tendances lourdes actuelles dans la gestion des affaires du monde ? Le monde multipolaire et multilatéral dont les BRICS sont la force motrice mettra-t-il fin au globalisme et ses relais au sein des organisations internationales? Quelles sont les opportunités qui s'ouvrent aux pays du Sud, notamment africains, pour se soustraire aux griffes du système global occidental? Tous les développements sur ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité Serge Véhémé, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant. Serge Véhémé, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Bonjour Kamal, merci de me recevoir.
Tout le plaisir est pour moi. Bien. Alors, le terme de gouvernance globale est apparu pour la première fois lors de la préparation du sommet de la Terre de 1992, également connu sous le nom de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui s'est tenue à Rio de Janeiro au Brésil. Bien. Alors, comment la gouvernance globale s'est-elle élargie au domaine de la sécurité, de la santé, des droits de l'homme et de l'économie mondiale ? Cela, on aimerait bien comprendre comment ces institutions qui ont été créées pour être des plateformes de discussion entre États souverains ont été captées par les promoteurs du globalisme. Et ma seconde partie de la question, comment expliquez-vous la facilité déconcertante avec laquelle s'est mise en place la concentration inouïe du capital qui a fini par installer un capitalisme de connivence et corrompu et corrupteur ?
Alors, réponse courte et un peu transversale entre les deux questions, c'est l'élite anglo-saxonne qui a réussi à imposer son projet de domination mondiale, un projet de domination qui est très ancien, qui date du 19e siècle et de la bande à Cecil Rhodes, et qui a pu réaliser ce projet pendant les 30 ans qu'a duré la période entre la chute de l'Union soviétique et le début de l'opération spéciale. russe en Ukraine. Pendant cette période très courte, cette parenthèse historique, l'élite anglo-saxonne a eu les mains libres. Et on a assisté à une tentative de prédation des richesses mondiales. On sait tous à peu près quelles ont été les grandes caractéristiques de cette période de mondialisation pratiquement réussie. On a eu une marchandisation développée du monde, une augmentation insensée des profits oligarchiques et une précarité généralisée. Alors il se trouve que les Russes le 24 février 2022 ont mis un terme en quelque sorte à la fin de l'histoire qui était annoncée.
C'est la fin de l'histoire.
Ils ont terminé la fin de l'histoire.
Par Francis Fukuyama.
Exactement. Mais en Occident, on y est toujours. On entend, d'ailleurs c'est assez comique, on entend Janet Yellen, qui est la secrétaire au Trésor américaine, parler de mondialisation entre amis. Donc c'est un concept étrange, mais enfin ça veut dire que nous on va y avoir droit encore pendant un moment en Occident. Et quand on entend ça, cette petite musique de fond, et puis celle de Josep Borrell, le soi-disant ministre des Affaires étrangères européen, parler de jardin européen entouré par la jungle.
C'est un peu vraiment c'était très choquant de l'entendre dire ça, que l'Europe est le jardin d'Éden et le reste, c'est la jungle.
Bon, il est sénile en même temps, hein, mais effectivement, il y a un fond là-dedans, il y a un vieux fond de racisme qui est assez évident. Et puis surtout, moi comme occidental, ça m'évoque plutôt une nouvelle prison des peuples, vous voyez. Je suis pas sûr que tout le monde ait envie de vivre dans ce jardin, étant donné les derniers développements de la vie en Occident.
D'accord.
Alors, pour répondre de manière plus complète à vos questions, il faut mettre un peu d'ordre dans un certain nombre de concepts. Par exemple, multilatéralisme, organisation internationale et globalisme sont des choses qui sont liées, évidemment, mais qui ne se confondent pas. Le multilatéralisme a préexisté aux organisations internationales. Les premiers grands exemples de multilatéralisme, c'est les conférences de la paix, comme on a eu les trois traités de Westphalie au XVIIe siècle. C'était déjà multilatéral, puisqu'il y avait plusieurs États qui se mettaient autour d'une table pour discuter des conditions de la paix. Mais en l'occurrence, les États étaient, et la souveraineté elle-même était le sujet même de ces traités.
Exactement.
Donc voilà,
le multilatéralisme, c'est en fait, bien que ça sous-entend, et pas ça sous-entend, mais ça parle d'une présence de beaucoup d'acteurs dans la négociation d'un traité ou d'un accord, mais c'est que le principe directeur, c'est la souveraineté des États.
Absolument, ce sont des États souverains qui se mettent autour de la table et qui discutent de manière relativement discrète pour signer un traité qui finalement doit apporter quelque chose, hein, et pas forcément pour faire plaisir aux médias, comme c'est actuellement le cas, mais on y reviendra, je pense, puisque les organisations internationales sont devenues des espèces de robinets à eau tiède. Parce que, justement, au nom de la transparence, on doit absolument rendre public les développements qui s'y font. Donc, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que les organisations internationales ont préexisté également au globalisme. Les organisations internationales, c'est quelque chose de nouveau, qui a métastasé à partir de 1945, parce que à ce moment-là, les États-Unis avaient décidé d'établir leur empire mondial. Ils n'y sont pas arrivés. Ils ne sont pas complètement arrivés, puisqu'il y avait une logique bipolaire à ce moment-là. D'ailleurs, quand je dis bipolaire, il faut penser aussi en termes de polarisation. La polarisation, c'est quelque chose qui est arrivé en 1945. Ça n'existait pas avant. Que ce soit qu'on parle de bipolarité ou de multipolarité ou d'unipolarité, la question ne se posait pas avant 1945. D'ailleurs, la bipolarité, c'est une maladie psychiatrique. Donc le système international n'a pas toujours été polarisé. Et au moment où les organisations internationales sont apparues, c'est-à-dire après 1945, il y a eu une véritable floraison. Je crois qu'il y a aujourd'hui plus d'organisations internationales qu'il y a d'États dans le monde. Ça s'est fait très rapidement. Et l'origine, là encore...
La majorité, ce sont des excroissances de l'ONU. Du premier noyau qui est l'ONU, et après, ça des électrons qui gravitent.
Ce que je voulais, j'y viens tout de suite, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que cette polarisation, elle est réellement anglo-saxonne. C'est-à-dire que la charte de l'Atlantique a été signée entre Churchill et Roosevelt en 1941, donc avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle prévoyait déjà ce système international tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc la racine est vraiment anglo-saxonne. Mais vraiment anglo-saxonne. Et donc aujourd'hui, les organisations internationales, c'est une véritable bureaucratie mondiale. Il y a à peu près 250 000 agents. Donc agents, hein, ça ne veut pas dire des personnels, des fonctionnaires internationaux, ça peut être aussi des précaires, hein, il y en a beaucoup. Et je pense qu'il faut aussi distinguer entre les différentes formes que peuvent prendre les organisations internationales. Les organisations internationales peuvent être spécialisées, notamment dans le domaine des télécommunications ou
la santé, par exemple.
La santé, voilà, la météo,
le climat,
voilà, ou généraliste, ONU et Union européenne, par exemple. Qui s'occupent un peu, qui ont un éventail très large de sujets de préoccupation. Elles peuvent être des organisations d'intégration, comme l'UE par exemple, qui est le véritable prototype, hein, du gouvernement mondial, on y reviendra sans doute, mais ou à un degré moindre, la CEI.
D'accord. Hein,
et où elles peuvent être des organisations de coopération.
D'accord. C'est-à-dire
des États qui se réunissent pour discuter. Elles peuvent être aussi globales ou régionales. C'est ça tombe sous le sens. De plus, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le domaine des organisations internationales sans avoir une perspective sur la nature du globalisme dans l'esprit du système de pensée dominant. Ça repose sur un concept qu'a développé un économiste turc qui s'appelle Dani Rodrik, qui a travaillé, je crois, au FMI, et qui parle d'un trilemme. Le trilemme, c'est trois possibilités qui s'excluent mutuellement. Donc, le dilemme, c'est deux, le trilemme, c'est trois. Et donc, les trois termes du trilemme de Rodrik, c'est qu'on ne peut pas avoir, fonctionnant ensemble, un État-nation souverain, des libertés publiques ou la démocratie, et la mondialisation. Donc il y a un des trois termes qui doit disparaître. L'État-nation peut subsister dans le cadre du globalisme. Il peut subsister dans la mesure où il est une forme de garant local.
Et de la politique globale.
Voilà, de la politique globale.
D'accord.
Il a le bon format pour, d'ailleurs qui est déjà en place, hein, pour surveiller et punir les populations.
D'accord.
Par contre, donc... On ne peut pas supprimer la mondialisation, puisque par nécessité, la mondialisation, c'est la poule aux œufs d'or des oligarques occidentaux, donc on n'y touchera pas. On peut garder l'État-nation, et du coup, si on garde l'État-nation et la mondialisation, on doit supprimer les libertés publiques.
Okay. Hein,
et c'est le choix qui a été fait.
Là, j'aimerais quand même passer, parce que nous avons pris pas mal de temps pour, et c'était très important justement, Albert Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde, et c'était à point nommé. La deuxième question, c'est l'éruption c'est visible partout, y compris dans le domaine politique. Il y a une espèce de managérialisme. Nous n'avons plus d'hommes politiques, nous n'avons plus de dirigeants et tout. Mais il y a la mentalité du manager qui a infiltré pratiquement tous les secteurs de la société. Alors, l'éruption de cette caste de managers globalisés, donc dans le sillage de la destruction des souverainetés étatiques, a été le fait marquant des décennies ayant suivi la chute de l'Union soviétique. Alors, le monde a vu l'émergence d'une technostructure transnationale qui se fréquente, communique, se connaît, parcourt le monde et promeut l'agenda de cette globalisation d'un monde unique. Alors, on aimerait bien comprendre et expliquer à nos auditeurs africains comment les organisations internationales, dont le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, l'UNESCO, l'OMS, sont-elles devenues les outils de cette stratégie globaliste ?
Eh bien, parce que simplement, l'Empire américain, qui a essayé de se constituer, est devenu un empire, après la chute de l'Union soviétique, est devenu un empire hors sol et oligarchique. Alors, beaucoup d'organisations internationales se sont adaptées à ça en essayant d'être des secrétariats de la globalisation, parce que c'est leur pente naturelle. Si elles avaient pu le faire plus tôt, s'il n'y avait pas eu l'Union soviétique, elles l'auraient fait. Et puis ensuite, pour simplement exister, une organisation internationale doit boucler son budget. Donc pour boucler son budget, elle doit faire la preuve de son utilité. Son utilité à quoi ? Eh bien, en l'occurrence, à servir les intérêts des contributeurs les plus importants. Et généralement, c'est les États-Unis qui contribuent le plus. Ils ont une particularité, c'est qu'ils payent beaucoup, mais ils payent tard. Donc,
c'est-à-dire qu'ils payent tard.
Les organisations internationales sont souvent à mendier les arriérés de paiement.
Ah.
Voilà.
Et là, bien sûr, si vous voulez que je paye...
C'est ça. Voilà. Avec interdiction aux pays qui seraient candidats pour payer plus que leur part de le faire. C'est arrivé. On ne laisse pas quelqu'un d'autre payer une somme au-delà de ce qui est de la répartition budgétaire initiale. Parce qu'on veut garder, la main sur l'organisation. Et puis il y a eu une confusion du genre, parce qu'il y a eu une introduction des intérêts privés, y compris dans les organisations internationales.
Justement, c'est la question à laquelle je voulais vous poser tout de suite. Il y a quand même des groupes privés ou para-étatiques, comme le Forum économique de Davos, par exemple, McKinsey, Bain & Company, Boston Consulting Group, Aspen Institute. Ils sont tous devenus des acteurs justement majeurs de la globalisation, y compris au sein des institutions.
Et ça a fait beaucoup de peine aux organisations internationales, parce que c'est des concurrents sur un marché qui est dérégulé, et des concurrents sur le marché de la production de rapports.
Ça, disons que c'est une question qui les regarde entre eux. Mais pour un observateur qui regarde de l'extérieur, comment ça se fait que des organisations qui réunissent des intérêts privés, qui ne rendent compte à personne, sinon à eux-mêmes ou à leurs actionnaires, et qui débarquent dans des institutions internationales, voire dans des États, qui normalement sont là pour servir l'intérêt général. Donc cet inceste est quand même assez incroyable. Et ce sont des groupes qui ont acquis une influence quand même grandissante.
Et ils ont pris de l'importance auprès des gouvernements. Regardez comment McKinsey a travaillé main dans la main avec l'État français. Les organisations internationales ne pouvaient pas rester en dehors de cette évolution dérégulatrice. Et on sait que McKinsey et Deloitte vendent des analyses et des éléments de langage clés en main, non seulement aux États, mais aussi aux experts des organisations internationales. Ça se fait.
Prenons l'exemple du forum de Davos. Comment ça se fait que ce forum puisse avoir une telle influence sur l'économie mondiale ? Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte d'abdication de la souveraineté par les chefs d'État, par les gouvernements eux-mêmes ?
Alors, le Forum de Davos n'est pas une organisation internationale, mais le Forum de Davos, c'est essentiellement une réunion sectaire. Hein. C'est la caste dirigeante,
mondialisation.
C'est ça, c'est la caste globaliste qui se réunit et qui. Il n'y a pas que Davos, mais c'est l'endroit où il se montre. Mmh. Hein, il se montre. Il faut être vu quand on est une personnalité importante. Voilà. Et donc, bah, il faut bien qu'ils parlent de quelque chose, donc ils parlent de leur argent. Et la presse suit. Mmh. La presse suit, parce que la presse, je ne sais pas si on veut faire de la sociologie de la presse, mais enfin la presse...
Justement, c'est la question suivante, justement.
Oui, la presse...
Justement, parce que tout ça comme institution ou comme organisation internationale du globalisme, s'il n'y a pas, comme dit le Noam Chomsky, une espèce de fabrication du consentement... Du consentement, hein, c'est très important. Le consentement, c'est-à-dire que une sorte de suivisme automatique, en pensant que ce qui vient de toutes ces milieux-là ne peut être que bien, et le rôle clé, c'est justement les médias qui l'ont joué.
Alors pour revenir à Davos, donc c'est l'expression en fait d'un monopolisme totalitaire. Hein. Ça ressemble beaucoup au totalitarisme soviétique. Vous avez l'actionnariat vous avez les États qui délèguent des responsables. Vous avez l'actionnariat des différents complexes militaro-industriels, agroalimentaires, pharmaco-chimiques et les fameux GAFA dans le rôle du parti unique. donc tout ça marche en synergie. Et les médias suivent parce que de toute façon il n'y a plus aucun média occidental, en tout cas, qui définit son propre calendrier de reportage, d'enquête. Bon, dans la plupart des cas, en tout cas pour ce qui est de la France, vous savez bien que les médias sont largement subventionnés parce qu'ils n'ont plus de lecteurs.
Donc c'est en fait c'est la corruption, que ce soit active ou passive. Et donc, quand on met le pied dans le précaré de la corruption, on le sait tous, hein, la corruption amène la soumission, et la soumission amène la trahison.
Voilà, alors l'armée d'occupation des esprits, les médias. Mm-hmm. Ils sont là pour ça. Il faut prévenir les révoltes populaires, parce que quand même ça se fait pas tout seul en principe. Si les médias faisaient leur boulot, il y aurait des récriminations. Donc il faut occuper les esprits. Les chaînes d'information continues sont là pour ça. Les organisations nationales, malheureusement, font système avec les médias. C'est des échanges de bons procédés. Je sais que quand on était dans mon organisation internationale, je travaillais au service de presse. On fabriquait l'information au sens strict. C'est-à-dire que on écrivait des communiqués de presse. On écrivait des communiqués de presse avec les petites cotes qui allaient bien. Mmh. Ce qui veut dire que le type de l'AFP qui venait récupérer directement le communiqué de presse, Et les deskers de la presse écrite reprenaient intégralement le communiqué de presse qui avait été repris intégralement par l'AFP notamment. Mmh. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on retrouvait les coquilles du communiqué de presse dans l'article du journal. Mmh. Alors que vous avez l'impression que le journaliste y était, puisqu'il avait repris les codes
du discours. C'est-à-dire que ça s'est fait à dessein, dont le but justement de fermer tous les espaces nécessaires à la réflexion, à l'analyse.
Écoutez, à ma connaissance, il n'y a pas un journaliste en France qui réfléchit. Ça n'existe pas. Il y a des éditorialistes qui sont payés très cher pour répercuter ce qu'on leur demande de dire, parce que leurs propriétaires, il y a 5 ou 6 propriétaires de la presse en France, hein, pas plus. Donc ils sont tout puissants. Et donc ils vont payer des éditorialistes, ils vont surpayer des éditorialistes qui vont dire ce qu'on leur demande de dire. Et puis il y a les petites mains, les sans grades, qui sont pas payés, pas éduqués, qui sont précarisés et qui sont tout juste capables de courir avec leur caméra dans les chaînes d'info en continu pour traiter en quatrième vitesse les sujets sans réfléchir. En général, ce sont des jeunes gens ou des jeunes filles qui sont pas formés ou très peu, très mal, et qui ont peur pour leur boulot. Quant aux journalistes de desk dont on a parlé, là, ils se contentent de bâtonner des dépêches. Vous savez, on change 3 virgules et puis on change le titre et on signe l'article. C'est ce qui se passe. C'est exactement ça. Voilà, c'est un système de prédation imaginé par les fauteurs de guerre et qui peut pas survivre sans un contrôle permanent du cerveau des citoyens. Mmh. Voilà. Et parce que les citoyens, ils versent leur sang, ils payent les impôts. Donc ils sont bien aimables de la fermer. Donc il faut leur donner leur picotin d'info bidon jour après jour. Il y a des gens qui font ça. Mais il y a plus de journalistes.
Par exemple, dans le cadre de la, moi, nous l'avons vécu, c'est-à-dire, comme on dit, quotidiennement, et dans notre chair, depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Donc, nous avons tenu ici une ligne éditoriale, qui a été finalement vérifiée par les faits. Nous n'avons pas menti. On dit que les choses, comment elles se passaient, et dans quel sens elles allaient, bon. Et l'autre côté, ils ont menti sur toute la ligne, et même à compte, par exemple, prenez l'exemple de Bakhmout ou de Artyomovsk. Ils ont fait campagne pendant 6 mois. Artyomovsk, si Artyomovsk tombe, ceci, cela, ça ne peut pas, c'est le fief de la contre-offensive. Et puis, quand elle a été prise par l'armée russe, le lendemain, non, finalement, c'est pas une ville stratégique. Ils ont pas son zap. C'est comme si.
Oui, alors bon, pour le cas des situations un peu d'urgence comme celle-là, c'est du mensonge pur et simple. Mais de toute façon, ils savent que personne ne va aller vérifier sur place l'information. Par contre, ce qui se passe de manière ordinaire, et ça c'est de la presse du quotidien, c'est qu'on parle des sujets dont il faut qu'on parle. On parle des sujets choisis par la hiérarchie. C'est jamais Tintin reporter n'existe plus. Il faut le savoir. Ça appartient définitivement à l'histoire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Mais il y a même des journalistes, par exemple, qui ont tenté d'amener la vérité, comme Anne Laure Bonnel. Elle n'a pas le droit de citer dans les médias, sauf quelques-uns, comme Sud Radio, mais dans les médias publics, dans les médias de masse, rien du tout.
Mais le problème d'Anne-Laure Bonnel, c'est qu'elle a mouché Bernard-Henri Lévy en direct. Ça n'a pas plu du tout. Le lendemain, elle perdait son boulot. Et j'ai appris que ses comptes en banque étaient fermés. Voilà, ça se passe comme ça.
D'accord.
C'est très brutal, c'est très violent. Maintenant, les médias, disons qu'on peut en parler, mais c'est un peu accessoire, puisque de toute façon, ils n'ont plus de lecteurs et que ils sont entièrement dans la main de leur propriétaire. Donc c'est presque plus un sujet. La question, c'est celle de la liberté d'expression en général. La liberté Absolument. D'expression en général, c'est notamment en ce moment ce qui est en train de se produire au niveau de l'Union européenne. Il y a le bras de fer entre Twitter et la Commission actuellement. Le Digital Service Act de l'Union européenne s'appliquera à 19 sociétés Internet. Elles devront respecter les lois de l'Union sous faute de se prendre une amende de 6% du chiffre d'affaires, ce qui est quand même pas rien. Et donc il y a à peu près toutes les grandes sociétés d'Internet qui sont là-dedans.
Quelle mission on leur a assignée, c'est d'empêcher les publications de choses.
Évidemment, ça reste suffisamment vague pour permettre toutes les interprétations. Hein. Il faut refuser par principe la désinformation, le complotisme, la haine, etc. Quoi.
Et après, tout dépend de comment on interprète ça.
Et donc, vous avez Thierry Breton, là, qui personne n'a jamais élu ce garçon, hein, qui est le commissaire européen, qui a dit que vous pouvez courir, mais vous ne pourrez pas vous cacher. ça donne envie. Hein. Ouais. Donc, on en est là.
D'accord. La première partie de notre entretien arrive à sa fin, chers auditeurs. Je vous retrouve en compagnie de mon invité, Serge Véhémé, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. « Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Serge Véhémé, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant. Serge, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Rebonjour.
Alors, comment les services de renseignement américains ont-ils réussi à transformer ces organisations internationales en outils de soft power parmi d'autres ? Comme on pourrait ajouter les choses qui sont proprement américaines, comme Hollywood, les ONG, de la promotion de la démocratie, les médias, et ainsi de suite.
Oui, les Américains sont des gens extrêmement pragmatiques. Donc, organisations internationales, films de cinéma, médias, USAID, tout ça, c'est des outils de soft power, donc ils les traitent à peu près de la même manière.
Et ce que nous voyons, c'est que ça intègre une même stratégie hybride de promotion de la globalisation et aussi pour asseoir la domination.
Oui, alors à ça s'ajoute effectivement le fait que après la chute de l'Union soviétique, les services secrets américains ont été réorientés massivement par l'administration Clinton sur les questions de renseignement économique. Mmh. Et donc, les organisations internationales ont fait partie du package, en quelque sorte. Elles ont été mises au service des autant que faire se pouvait, bien sûr, au service des multinationales américaines. Je sais que nous, là où j'étais, moi, on avait la NSA qui était présente dans le bureau d'à côté. Donc, ce qui est moyennement légal, si vous voulez. Enfin bon, ça se passait comme ça. Ils ont mis vraiment la main sur ce qu'ils pouvaient tenir. Alors comment ils ont pratiqué essentiellement par une métamorphose en fait des organisations en interne, parce que une organisation internationale qui vivait encore sur le logiciel de la guerre froide ne fonctionnait pas du tout sur le même modèle d'une organisation qui devenait qui avait tendance à devenir plus globale et qui devait s'adapter à la nouvelle donne internationale. Mmh. Donc on a eu dans le milieu des années 90 des gourous du management qui sont venus remettre un peu aux normes le fonctionnement des organisations internationales, hein. On a eu des campagnes de team building, des choses comme ça, c'était assez intéressant. Et en fait les organisations internationales sont progressivement devenues, enfin une bonne partie d'entre elles en tout cas, sont progressivement devenues des sortes d'annexes de la bureaucratie américaine, avec toutes les tares de la bureaucratie américaine, hein, la prolifération procédurale, la hiérarchie infantilisante, l'hyperspécialisation des tâches, et puis finalement le contrôle politique. Il faut bien voir quand même que les administrations américaines fonctionnent beaucoup sur le contrôle politique. Les organisations internationales en retour ont eu une espèce de pratique, si vous voulez, d'acculturation des États. Hein. Mmh. Et ils ont fait place nette pour, au nom d'enjeux multilatéraux qui étaient, forcément sublimes. Et qui surtout donnait une sorte de rente de situation à vie pour les organisations internationales. Par exemple, je sais pas moi, changer le climat, s'occuper des pandémies, il y en a pour plusieurs vies à faire ça. Et donc elles ont pensé assurer leur pérennité de cette manière-là, ce qui épousait en même temps les objectifs
de la globalisation.
De la globalisation telle que désirée par essentiellement l'oligarchie américaine, mais pas que, hein, la globalisation, les globalistes, ce ne sont pas les Américains. Les Américains ont été le bras armé de la globalisation, puisque l'ultima ratio quand même de la globalisation, c'est l'armée américaine. Ouais. tout l'appareil, tout l'appareil de propagande, effectivement, qui va d'Hollywood aux grands médias internationaux, mais aussi toute l'infrastructure Infocom, qui est importante hein, dans les organisations internationales.
Et les ONG
tout ce qui est, voilà,
et les promotions de la démocratie.
Bien sûr, les ONG, la ND, les organisations, les métastases de l'organisation Open Society de Soros, etc. Tous ces gens-là ont fonctionné ensemble. Tous ces gens fonctionnaient ensemble. On recevait Soros dans les organisations internationales, les cabinets d'expertise privée travaillaient avec les bureaucrates. Tout ça, il y a eu une confusion des genres permanente. Et comme l'État, l'État américain était l'État le plus important dans la plupart des organisations internationales, c'est lui qui plus ou moins imposait les choix. Mais c'était pas les choix des Américains, naturellement, c'était les choix de...
Et en face, comment ça se fait que les autres États n'ont jamais contesté, justement, cette situation ? Parce que, quand même, cet aspect-là a fait beaucoup de dégâts dans pas mal de régions dans le monde, et c'était visible qui était derrière. C'est un peu étonnant, parce que je parle des institutions quand même qui sont issues de l'ONU, par exemple. Comment on fasse c'était un peu le...
Mais parce que comme le disait la regrettée Madeleine Albright, retirée à notre affection l'année dernière, les États-Unis étaient vus comme la seule nation indispensable. C'est la seule nation qui avait le droit d'exister dans le concert des nations à ce moment-là. C'est puisque c'est elle qui imposait ses choix. Elle ne pouvait pas... le départ des États-Unis pour une organisation internationale, du budget de l'organisation internationale, c'est une catastrophe. Donc, le consensus se bâtissait autour des décisions américaines.
Mmh. D'accord. Bien. Alors... La question suivante, on aimerait aussi bien comprendre comment s'exerce le soft power américain sur les organisations internationales et par transition, justement c'est ça qu'on veut comprendre, par transition sur les États et les peuples. Ça, comment cela fait en sorte qu'il n'y a pas d'immunité. Bon, à l'intérieur des organisations internationales, c'est bon, c'est clair. Mais il n'y a pas d'immunité des États par rapport aux décisions ou ce qui est promu par ces organisations. Et puis, comment les urgences globales, comme par exemple le terrorisme, la santé, le climat, l'apocalypse financière, l'apocalypse économique, sont-elles devenues une partie intégrante de la géopolitique de la peur et de la gestion des affaires du monde par la peur qui a conduit à une pensée unique, coercitive et liberticide. Nous l'avons tous vu dans la façon avec laquelle la pandémie de Covid-19 a été gérée.
Le soft power, il faut toujours agiter le peuple avant de s'en servir. Donc la gestion par l'urgence, la gestion par la peur est assez essentielle parce que ça permet de... d'imposer des choix par la stratégie du choc dont parlait Naomi Klein, vous savez. Et donc c'est au nom de la lutte contre la désinformation, la lutte contre le terrorisme, que l'UNESCO va maintenant censurer l'Internet. En classifiant les plateformes, les contenus, les utilisateurs, pour améliorer, soi-disant, la fiabilité des informations, parce qu'il y a un complot de gens conspirationnistes et animés de très mauvaises intentions. Et donc, de la même manière, l'OMS prépare, vous le savez, ce projet de traité supranational qui permettra de contrôler les politiques intérieures des États.
Oui. Alors, et d'une manière contraignante.
Alors, j'ai vu aujourd'hui que... Un responsable de l'OMS a dit qu'il fallait absolument, je n'ai plus la citation exacte, qu'il fallait contrôler la liberté d'expression dans le cadre de la prochaine pandémie qui est en cours de préparation là. Et donc on va avoir un état mondial policier, médical et scientifique qui va se mettre en place là dans les mois, peut-être dans les années qui viennent.
Et sur la base d'une maladie, parce que moi j'ai regardé cet aspect-là, et sur la base d'une maladie X qu'ils disent qui n'existe pas encore, nous ne savons pas quel agent pathogène va la provoquer, ni dans quelle région du monde ou quand elle pourrait se déclarer. Mais au nom de cette maladie X, on va mettre sur pied toute une batterie, un système, un mécanisme de contrôle des politiques sanitaires, et dans le cadre d'un accord contraignant, juridiquement contraignant pour les gouvernements.
Absolument, et tout ça se fait, pour le moment, il y a une collaboration en cours entre l'Union européenne et l'OMS, l'Union européenne mettant à la disposition de l'OMS son passeport numérique. On va avoir une sorte de passeport numérique qui va contenir les informations de santé, et qui a vocation à être émis à l'échelle mondiale. Donc on voit bien que l'Union européenne, ça ne concerne pas que les Européens, ça concerne le monde entier, puisque l'Union européenne, en quelque sorte, c'est un peu le prototype, c'est une organisation internationale, mais c'est un peu le prototype du gouvernement mondial. Il y a ce projet d'identité numérique, bien sûr, donc en collaboration avec l'OMS. L'Union européenne va aussi mettre en place le toujours pour la lutte contre le financement du terrorisme, bien sûr, va mettre en place donc l'euro digital, qui sera une monnaie programmable.
C'est-à-dire programmable.
Programmable, ça veut dire que elle sera éventuellement temporaire. Vous aurez un délai X pour dépenser l'argent qui est sur votre compte. Faute de quoi, on vous le prendra.
Ah ouais.
Oui,
donc parce que vous allez avoir. C'est l'interdiction faire des économies, une épargne.
Mais le but final de tout ça, c'est effectivement d'annuler la propriété privée, puisque vous ne pouvez plus épargner l'argent. Donc si vous ne pouvez plus épargner l'argent, vous ne pouvez pas accéder à la propriété. Donc il y a une espèce de bolchevisme 2.0 qui se met en place au niveau des populations et qui va entrer en vigueur avec cet euro digital.
C'est
un système de crédit social. L'euro digital va aussi permettre de contrôler votre consommation d'énergie fossile, de votre consommation de viande, puisqu'il paraît que les pets de vaches font bouillir les océans. On va contrôler votre consommation de viande. J'ai appris comment est né le GIEC, par exemple, qui va nous mettre en prison pour cette farce de réchauffement. Le GIEC est né en fait en Angleterre sous l'égide de Margaret Thatcher, qui était en prise avec les syndicats de mineurs. Et donc qui a créé de toute pièce ce truc pour qu'ils disent du mal de l'industrie du charbon. Ça vient de là. Et donc le GIEC est un organe de contrôle politique, en fait. Alors avec il y a sans doute quelques scientifiques, mais c'est beaucoup de la diplomatie, enfin beaucoup plus que de l'idéologie ou de la diplomatie scientifique.
Les vaches, quand même, c'est quand même bizarre de découvrir en 2023 seulement que les vaches pètent.
Exactement.
Et que
vous ne saviez pas, le GIEC vous l'apprend. Et va contrôler l'usage que vous faites de votre porte-monnaie.
D'accord. Alors, la question, c'est très intéressant parce que ça donne envie de pousser un peu le bouchon très loin dans la compréhension de tous ces mécanismes et afin d'avoir justement les outils et la conscience de comment il faudrait faire. D'y faire face d'une manière dogmatique, mais d'une manière pragmatique et en préservant les intérêts nationaux. Bien. Alors, la question suivante, c'est sur l'utopie mondialiste elle-même. Donc, cette utopie est de plus en plus déconnectée des réalités d'un monde multipolaire, notamment depuis son accélération, cet aspect-là, depuis son accélération depuis le début de l'opération russe en Ukraine. Et ces valeurs sont actuellement, cette globalisation, ces valeurs sont actuellement universellement rejetées. La multipolarité rétablit de plus en plus les États, nous le voyons dans beaucoup de régions dans le monde, notamment en Afrique, dans leur rôle d'acteurs principaux du système international et de protecteurs des intérêts des peuples souverains. Alors, ma question, quels sont les différents signes que vous voyez, qu'on pourrait acter, qu'on pourrait dire qu'effectivement, ce sont des signes de l'agonie du mondialisme et des organisations internationales?
Alors, quand vous parlez d'utopie mondialiste, vous voulez parler de dystopie mondialiste?
Oui, absolument. Ouais. On peut dire ça de...
Alors, c'était d'ailleurs...
Je ne sais pas, beaucoup de mots, justement, ont pris un sens, ont été tournés, retournés, et pris un sens péjoratif, alors qu'en réalité, ça a un sens positif. Une utopie, c'est un idéal auquel on pourrait travailler et faire avancer les choses. Mais là, justement, c'est un dévoiement complet.
Oui, je parle de dystopie parce que c'est lié au globalisme. Il y a une série d'auteurs dystopiques anglais qui sont plus ou moins associés au globalisme et au projet d'empire mondial britannique. Il y a eu, bien sûr, H.G. Wells, et H.G. Wells et la guerre des mondes. Et H.G. Wells, il faut le savoir, a littéralement biberonné les frères Huxley, donc Aldous Huxley, qui était l'auteur du Meilleur des Mondes, et Julian Huxley, qui est devenu le premier secrétaire général de l'UNESCO. Et il faut savoir que il les a biberonnés à Eton, dans une public school fameuse en Angleterre. Et je ne sais plus si c'était Julian, non, c'est Aldous Huxley, de son côté, était le répétiteur de français d'Orwell. Donc tous ces auteurs ont des liens entre eux. Mmh. Et il est certain, en tout cas au moins pour Le Meilleur des Mondes, qu'il ne s'agit pas d'une simple dystopie, mais d'un programme politique. Mmh. Orwell, c'est, en gros, c'est, donc, quand on demandait à Orwell quelle image il se faisait du futur, c'était une tête sous une botte. Écrasé par une botte. Mais Huxley avait une autre approche. Lui, il disait que les gens allaient accepter plus facilement leur esclavage si on les camait, ou si on les droguait suffisamment pour leur faire accepter en leur donnant une nouvelle perception du monde, pour leur faire accepter leur esclavage. Ils seraient très contents comme ça, avec des pilules, en quelque sorte. Bref, fin de la digression. Donc les signes d'agonie du mondialisme, il y en a plusieurs. Bien sûr, il n'y a plus d'économie mondiale intégrée aujourd'hui, c'est une évidence.
Ce qui est étonnant ici, Serge Weber, c'est que après l'opération spéciale russe, son début, ce sont ces forces-là elles-mêmes qui ont achevé la mondialisation. En s'attaquant aux avoirs de la Banque centrale russe, en imposant des sanctions unilatérales illégales, en faisant comprendre au monde entier que justement ces promoteurs de la globalisation, de la mondialisation, ne pouvaient en aucun cas être des partenaires fiables. Et je crois que c'est pour ça que Janet Yellen parle d'une mondialisation entre amis, c'est-à-dire en club serré et fermé.
Oui, alors moi je pense qu'ils imaginaient que les sanctions seraient suffisantes et qu'elles allaient rapidement mettre la Russie à genoux. On se rappelle de l'inénarrable Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, qui a dit qu'il allait détruire l'économie russe. Ouais. Le boomerang a été violent pour le moment. Il pensait sans doute ça. Ce que je comprends moins bien, c'est effectivement le désossage financier. Pourquoi couper beaucoup de banques russes du système SWIFT, je ne sais pas. Le SWIFT était notoirement sniffé par la NSA, la National Security Agency américaine. Il se prive d'un instrument de surveillance. C'est bizarre, je n'ai pas d'explication là-dessus. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est qu'il pensait réellement que la Russie ne survivrait pas aux sanctions. Elles ont eu un effet contracyclique, puisque la Russie s'en sort beaucoup mieux que les Européens et que les États-Unis également. L'économie, parce que l'économie mondiale se dédollarise. Et donc c'est un instrument de chantage en moins. Quand on voit le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et le basculement probable de ce bloc arabe vers les BRICS, on imagine quand même que le nomos de la Terre a changé. Tout est cul par-dessus tête. Et l'OMC, par exemple, qui est né de la mondialisation, hein, l'OMC est né en 95, je crois. L'OMC est marginalisé, ça n'existe quasiment plus, on n'en parle plus. On parlait que de ça dans les années 90. C'était l'organisation internationale reine, maintenant on n'en parle plus. Le cycle de Doha est exsangue, enfin, ça n'existe plus. On n'arrête pas en Europe aussi d'éteindre des incendies, hein, à cause des tensions économiques et politiques. Et puis, justement, à propos de l'Europe, je voudrais revenir dessus, parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le prototype du gouvernement global.
Le laboratoire.
Et ça se passe plutôt mal. On ne sait pas quel domino va tomber, mais il est probable que ça ne va pas survivre éternellement. En tout cas, au moins la zone euro ne survivra pas. Et je voudrais revenir sur les scandales de corruption, parce qu'on a quand même une sélection particulière des élites en Europe. On a eu récemment, d'ailleurs, c'est amusant, parce qu'on a eu ce cas Target. Vous savez, les espèces de sacs remplis de billets de banque chez Eva Kaili, qui était la vice-présidente du Parlement européen. Alors la pauvre, c'est tombé sur elle, mais... C'est une victime collatérale du rapprochement entre le Qatar et l'Iran. Il fallait dire du mal du Qatar, donc on est tombé sur ce qu'on avait sous la main. Eh bien, figurez-vous que maintenant qu'elle a été pris les doigts dans le pot de confiture, on lui retire son bracelet électronique, elle va reprendre tranquillement ses fonctions de vice-présidente au Parlement européen. Voilà, ça se passe comme ça. Si on fait un peu l'archéologie de la présidence de la Commission européenne, on voit que...
C'est une belle métaphore, là. Ouais.
Sans remonter à l'ère des dinosaures, on a eu José Manuel Barroso quand même qui a été mis en difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire, pour son poste de premier ministre portugais, parce qu'il vendait de gré à gré comme ça, de la main à la main, il essayait de vendre au Carlyle Group le pétrolier portugais. Donc il a été débarqué, il s'est retrouvé évidemment président de la Commission européenne, et après être parti de la Commission européenne, il s'est retrouvé président du conseil d'administration du Gavi, donc la boîte à vaccins de Bill Gates. On a Ursula SMS von der Leyen, ouais. Qui, à date récente, a été prise par un enregistrement clandestin en flagrant délit de tentative pour faire entrer la Bulgarie dans la zone euro. Elle lui a dit, elle disait au moment d'une élection en Bulgarie, elle disait à un officiel bulgare que pour la zone euro, vous devez trouver comment contourner les règles, c'est-à-dire entrer dans le cadre.
Il y a aussi Mario Draghi qui est passé par le...
Mario Draghi qui est passé effectivement de Goldman Sachs à la BCE, à la Banque Centrale Européenne.
La Banque Centrale Italienne, la Banque Centrale Européenne, après Premier Ministre.
Premier Ministre, oui. Et puis il était chez Goldman Sachs aussi. Donc c'est ce système de revolving doors qui fait tourner le système. Et vous voyez que là, qu'on soit dans une organisation internationale, dans le privé, dans la sphère financière, ou dans un gouvernement, finalement, ça change pas grand-chose. Hein. On sait que une pantoufle vous attend toujours quelque part.
D'accord. Voilà. La dernière question, quand même, l'Afrique dans tout ça. L'Afrique dans tout ça, parce que quand on regarde toutes ces institutions, notamment le FMI et la Banque mondiale, quand même, elles ont quand même beaucoup sévi en Afrique. Et en Afrique, elles ont surtout servi comme des outils de domination qu'autre chose. Et actuellement, il y a des pays qui se lèvent et qui se dressent dignement, courageusement. L'exemple du Mali, par exemple. On voit balader tout le monde et déterminé à défendre sa souveraineté. Comment voyez-vous la situation? Et est-ce que toute cette situation-là est une chance, justement, pour les pays africains, au moins pour les pays qui sont décidés à la saisir, pour sortir de cette globalisation ou des griffes de cette globalisation et intégrer un monde multipolaire, multilatéral, où ils pourront défendre leurs intérêts et développer leur pays?
Oui, l'Afrique, les rapports entre les organisations internationales et l'Afrique sont assez conflictuels. La Banque mondiale et le FMI essentiellement ont été des spécialistes de l'ajustement structurel. On sait ce que c'est l'ajustement structurel. Hein. On privatise, on marchandise, et puis on écrase la concurrence locale par des produits importés, tout en considérant que des biens aussi essentiels que l'éducation et l'eau potable sont des marchandises comme les autres. Bon, mais le système est assez maladroit parce que la Banque mondiale, comme le FMI, a associé à ces programmes d'ajustement structurel des considérations sociétales qui révulsent littéralement l'Afrique. Hein. On fait pas un bon accueil en Afrique aux ONG, LGBT, etc. Ça révulse les Africains. Et donc, comme on a introduit ces critères ESG, hein, économique, social et global, je crois. Bref, les droits des minorités, etc. Enfin, toutes ces choses qui n'ont pas cours en Afrique, en fait. C'est assez maladroit.
Le continent africain, c'est un continent extrêmement jeune. Et puis
en plus, il y a aussi cette chose. Moi, j'ai fait de l'économie du développement dans une autre vie. Et on a toujours les Occidentaux ont toujours essayé de caler sur l'Afrique des processus de développement économique copiés sur le développement économique européen du 19e. Et évidemment que les modèles de développement calqués sur l'Europe du 19e siècle ne peuvent pas fonctionner en Afrique au 21e siècle. Donc je me garderais bien personnellement de dire exactement ce que doivent faire les Africains, parce qu'ils en ont un peu marre d'entendre les Occidentaux leur dire ce qu'ils devraient faire. Je pense que l'important, c'est qu'ils soient maîtres chez eux. C'est fondamental. Et puis que peut-être ils essayent enfin de... Je sais qu'en Afrique, il y a par exemple deux pays qui sont dans le top 10 des producteurs d'uranium, et en Afrique, il n'y a aucune centrale nucléaire. Ouais. C'est un scandale. Je pense que peut-être effectivement la coopération avec la Russie, les Russes qui maîtrisent très bien ces technologies, peut permettre de tirer profit enfin de cette matière première. C'est ça pourrait être un début. Voilà. mais je pense pas qu'on puisse. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est alerter sur les dangers du globalisme pour les.
C'était le sens de ma question. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Serge Vémé, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à poser cette question et cette problématique de la globalisation, son évolution actuelle et ses impacts. Et j'espère vous retrouver dans une autre occasion pour un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Serge Vémé, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique, en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.